Et vous écoutez France Culture. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Gilles Sebon. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, en compagnie ce soir du romancier Gilles Sebon, qui publie aux éditions du Rouergue Cirque Mort, qui est halluciné d'un lieutenant de police pour retrouver son fils disparu, immersion dans un monde d'enfants mages et d'adultes en proie au mal et à la folie. Deux chroniques également, seconde partie d'émission, Salpe de Cyril Henry paru au Seuil et Débit fin de Marc Villard, une publication Joël Losfeld, quelques mots également sur Jardin de sable de Earl Thompson chez Toussaint L'Ouverture. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Mauvais Genre, placé ce soir sous la vocation du polar, quatrième édition de notre cercle noir dans lequel nous vous prions bien évidemment d'entrer et de faire avec nous la ronde. Bonsoir Gilles Sebon.
Bonsoir François Angelier.
Gilles Sebon, notre précédente rencontre à ce micro et sur cette antenne, c'était à l'occasion de votre biographie, le long voyage dans la mémoire douloureuse et la vie martyre de Tony Duvert, littérature et pédophilie. Aux éditions du Dilettante, un ouvrage assez extraordinaire et assez effrayant.
Oui, un deuxième volet d'un récit biographique, puisque je revenais sur la vie de Tony Duvert avec de nouveaux documents, des découvertes, des photos étranges.
Des témoignages.
Et des témoignages, bien sûr, de son frère, notamment, qui est mort depuis. Donc voilà, c'était le moment de capter tout ça et de découvrir un petit peu la vie secrète de cet auteur que j'aime beaucoup.
Alors, le monde de l'enfance et la fascination pour l'enfant, on va les retrouver dans ce Cirque Mort qui paraît au Rouergue, dans la collection Rouergue Noir, mais là transposé dans un autre monde, puisque nous sommes dans le monde de la fiction et l'enfant n'a pas vraiment la même fonction. L'enfant est un peu chamanique, là. L'enfant est un peu doté d'une puissance sacrée.
Oui, il y a quand même peut-être une référence à Duvert, parce que l'île Atlantique n'est pas loin, c'est-à-dire cette réunion d'enfants qui se liguent un petit peu contre la ville. Mais effectivement, ce qui m'a intéressé, c'était d'imaginer que l'enfance était le lieu de pouvoir supérieur, étrange, qui nous concerne tous, mais qui nous attire et qu'il faut écouter en soi, qui sont un petit peu cachés en soi, et que peuvent nous donner ceux qui ont un petit désordre mental.
Cirque Mort, un titre assez énigmatique, on va voir à quoi il se réfère. Bonsoir Élise Lépine.
Bonsoir François.
Élise Lépine qui dorénavant opère à la télévision.
Effectivement.
Et parlez dans le micro, on ne vous en voudra pas.
Pardon, sur la chaîne Polar Plus, qui est une chaîne du bouquet Canal Plus, c'est l'émission Piste Noire qui est diffusée
Piste Noire,
samedi.
Le cercle
on décline
noir.
Le noir
voilà.
À l'infini, le samedi à midi et demi, présenté par Fabrice Drouel, et j'ai l'honneur de faire quelques chroniques dans cette émission de temps en temps.
Voilà. Alors, dernier titre évoqué,
c'était le prochain, en tout cas, ce sera Caryl Ferret. Pour ma part. Et le dernier, c'était une bande dessinée qui s'appelle Du sang sur les mains. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur.
Et voilà, très bien. Bah, écoutez, vous avez toutes les missions.
Je suis pas vraiment dans la bande
pour
dessinée.
Pour vous en souvenir. Bonsoir, Hubert Prolongeau.
Bonsoir.
Hubert Prolongeau, on demande toujours l'actualité des collaborateurs de l'émission. Et votre actualité, Hubert, là, c'est chez Robert Laffont. Un livre titré « Et vous y croyez ?» point d'interrogation et sous-titré « Petit tour de France des pratiques occultes ». Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Alors la dernière fois, vous étiez au pôle sud à chasser le phoque, et là, vous allez à court le sorcier, la sorcière, le médium.
C'est les joies de la vie de journaliste. Non, j'ai essayé un certain nombre de thérapies qui font appel à l'irrationnel ou à des choses que la science, en tout cas, n'explique pas. Donc, ça va des magnétiseurs aux exorcistes en passant par des épisodes plus folklorique, comme les huttes de sudation, la prise de l'ayahuasca, voilà, toutes ces choses que les gens font pour se sentir mieux et en même temps, sans bien savoir ce qu'ils font et qui toutes ont un espèce de vision du monde qui se rejoint. Donc tout le monde croit à un monde invisible, au fait qu'on est tous connectés les uns aux autres, qu'il y a des guides qui sont autour de nous. Enfin, c'est entre le fatra New Age et des vrais mystères, les guérisseurs, les hypnotiseurs. Voilà, j'ai essayé d'explorer tout ça en rencontrant les gens et sans les juger. C'est ça qui était important. C'était pas un livre ni pour dénoncer les charlatans, ni pour me moquer d'eux. J'ai pas été convaincu par énormément de choses, mais à chaque fois, j'y suis allé, j'ai écouté ce que ces gens avaient à dire et je me suis aperçu, puisque j'étais pas hostile, qu'il y avait énormément de gens qui croient des choses comme ça. Je pensais avoir du mal à les rencontrer. En fait, il suffisait que j'en parle et qu'ils aient le sentiment très vite que j'étais pas là juste pour ricaner. Et il y a plein de gens qui effectivement sont convaincus que voilà, il y a quelque chose.
Il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose derrière les choses, comme disait le Vigan. Mais alors, je reviens sur ce que vous nous avez dit. Vous avez vous-même pratiqué.
Quand c'était possible, oui. Donc c'est vrai que j'ai été canalisé, je suis remonté dans mes vies antérieures, j'ai pris de l'ayahuasca, j'ai eu une heure de discussion avec mon père mort il y a 3 ans, j'ai photographié des esprits, non, tout ça a été extrêmement...
Mais ce soir, vous êtes un mauvais genre, c'est donc la...
C'est une sorte de consécration,
c'est la consécration,
il faut bien dire,
des pratiques occultes
de ce parcours.
La France des pratiques occultes. Gilles Sevan, vous êtes vous-même livré à ce genre de...
De pratiques.
De tentatives, d'aventures, psychiques, intérieures.
Oui, on m'a tiré... les cartes, un ami m'a tiré les cartes parce que mon amant était enfermé dans un bateau prison en Hollande et ne donnait plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Et donc au désespoir, je me suis tourné vers cette magie-là. Et malheureusement, au terme du tirage de cartes, eh bien, mon ami m'a dit, pour une fois, les cartes ne disent rien, elles refusent de répondre. Et donc la voix est restée muette. Mais heureusement, l'amant a fini par reparaître.
Voilà. L'essentiel. Donc,
la magie avait peut-être opéré.
C'est tout de même ça qui compte. Eh bien, bienvenue donc à toutes et à tous sur ce plateau où nous ouvrons évidemment solennellement et de manière assez sorcière. Ce soir, cette encyclopédie pratique des mauvais genres et la lettre en est, ma chère Céline.
C'est la lettre R comme Remot, Axel Remot.
C'est une sorte de matière un peu visqueuse, gluante, qui s'entrechoquerait. Je ne sais pas, c'est assez...
On parlait du son de l'escargot, là.
Oui, c'est en même temps, du coup, très charnel et très sexuel.
Et ben voilà. La pluie qui tombe.
Un bruit assez étrange, très, très, très organique, de plus forme d'abysse... Je pourrais pas trop vous le décrire, le petit suintement un petit peu. En tout cas, oui, ça suinte énormément.
L'atelier d'Axel Remot se situe au fond du jardin. En attente des 300 escargots qui serviront à sa prochaine installation, Axel me fait visiter le lieu. Sur les murs, des scalpes de chevelure, des coiffures de femmes présentées comme des trophées de chasse, des doigts qui sortent d'éponges naturelles, une tête de mérou d'où s'échappent des poignées de cheveux, une robe de mariée sur laquelle l'artiste ira fixer des mouches mortes et des sacs de poils avec lesquels elle écrit des phrases sur les murs. Axel Remot s'intéresse au corps féminin, pris par petits bouts. Elle crée ainsi une cartographie de la femme déclinée à l'envi qui parle du désir, du fantasme, en travaillant avec des matériaux organiques très souvent voués à la disparition. Mais revenons-en à nos gastéropodes à coquilles. Comment travaille-t-on avec de la bave d'escargot ?
C'est assez complexe. Au début, je voulais trouver un moyen pour extraire cette bave et finalement, j'ai laissé faire les escargots et j'utilise un système de pochoir. Mais ils ne sont pas... on ne peut pas dresser un escargot. Donc, surtout pour lui faire dessiner un vagin, ça devenait vraiment dégoûtant. Donc non, juste en tamponnant.
Le vagin et la bave d'escargot, l'association des deux?
Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne voit pas tout de suite, d'ailleurs, le vagin et on ne distingue pas la bave. Hein. C'est un dessin quasi aussi invisible, comme s'il fallait s'approcher pour voir, en fait. C'est ce qui m'intéresse dans ces matériaux, ces substances très fines, quasi invisibles.
Alors, vous pourriez nous le décrire, ce dessin ?
C'est sur un fond noir, un papier noir, et on distingue une sorte de fine empreinte, comme un petit voile brillant, avec des bulles encore, comme si le dessin n'était pas encore sec, qu'il était encore en perpétuel mouvement. Donc, que celui-là a maintenant un an et je suis assez contente parce que je pensais qu'il allait entièrement disparaître. Et une fine pellicule encore reste accrochée sur le dessin, comme le matin finalement, les fines traces d'escargots qu'on peut voir si on se lève assez tôt après une rosée.
Ce dessin a un titre ?
L'installation a un titre, elle s'appelle « Aval et digère ».
Aval et digère est une installation composée de dessins faits à partir de baves d'escargots et accompagnée d'un aquarium rempli d'escargots vivants, bienheureux et choyés, dont la coquille a été agrémentée d'une fine couche dorée. Pour découvrir Aval et digère, rendez-vous à Bruxelles, à la galerie Hypercore, le 15 février prochain, à l'occasion du lancement du troisième numéro de la revue Féroce, cahiers érotiques dédiés à l'art, une revue de Clément Gagliano qui présente tous les ans un florilège d'artistes dont le travail explore le corps, le trouble et l'éros. Revue dans laquelle vous pourrez bien sûr retrouver les escargots dorés d'Axel Remeau. Plus d'informations sur Féroce, www.revueféroce.fr. Quant à Axel Remeau, une adresse, axelremeau.blogspot.com, où vous pourrez trouver toutes ses prochaines expositions à Arles, au château de Rivaux en Val-de-Loire et au musée de la Camargue à Marseille.
Merci Céline pour cette entrée Axel Remeau de notre encyclopédie pratique des mauvais gens. Je rappelle que c'est également un livre aux éditions Nada.
Exactement.
Alors j'aime bien les escargots à coquilles dorées, ça me fait un peu penser à la tortue ou à la carapace en diamanté qu'on avait chez Huysmans. C'est tout à fait dans Harbourg, j'aime bien ce genre de choses. Gilles Seban, les escargots, est-ce que c'est un animal?
Non, c'est drôle,
je
viens de lire Harbourg. C'est le dernier livre que j'ai lu, donc ça me fait sourire. Les escargots, je pense que je vais passer la question. Non, ça ne m'évoque rien de particulier, à part s'ils sont
c'est
en
pas
chocolat.
Un animal totémique.
Pas du tout.
Non, mais Élise Lépine, elle, par contre.
Moi, j'ai eu un escargot domestique, il y a quelques années.
Un escargot domestique?
Oui, je l'ai gardé un peu. Je l'avais trouvé dans une grappe de raisin, et puis je l'ai gardé.
Vous lui faites faire des petits dessins?
Il n'est plus, maintenant. Érotique. Il n'est plus.
Hubert Prolongeau. Non, il n'y a pas de raison que vous...
J'aimerais porter le deuil avec la même dignité qu'Élise, mais hélas, je n'ai pas eu d'escargot.
Vous avez un phoque domestique, c'est
voilà,
tout à fait
c'est
différent.
C'est beaucoup plus affectueux.
Enfin, là, on sait bien que ce n'est pas vraiment l'escargot qui compte, c'est sa bave, puisqu'on est capable de dessiner des vagins, enfin, que Axel Remeau est quand même capable de dessiner des vagins à partir de baves d'escargots. Donc je crois qu'il faut plus se consacrer sur le matériau organique qu'elle utilise et ses dessins quasi invisibles que sur la bête en soi qui en plus est relâchée car Axel Remeau est une amie des animaux.
Céline Duchesnay que l'on retrouvera, alors justement on se rapproche là, on quitte le bestiaire et les animaux pour s'approcher plus de l'univers de Gilles Seban, on retrouvera Confronté aux fantômes cette semaine sur la grille de France Culture, Céline, avec Laurent Polleret.
Aux fantômes, est-ce qu'on a croisé des fantômes avec Laurent Polleret? Peut-être réponse mercredi soir à 23h.
Mercredi soir à 23h,
voilà,
je répète.
Puisque c'est une création en air que nous avons fait qui s'appelle La Ligne Fantôme. Un projet de Laurent Polleret que j'ai accompagné pour dire réellement les
très
choses. L'idée de Laurent Polleret, et j'espère qu'il accepte que je parle en son nom, il me fait signe de la tête.
Il a l'air d'accord.
C'est que les lieux ont en fait une sorte de pulsation intérieure et qu'il est capable d'enregistrer les vibrations, les sons, les ondes qui traversent ces lieux. Donc nous, on s'est consacré à un lieu fantomatique par excellence qui sont les stations fantômes du métro parisien, qu'il y en a une bonne quinzaine, et nous sommes allés enregistrer dans un certain nombre d'entre elles les sons qu'on pouvait entendre de ces rames qui passent au loin, de ces pas, de ces
graves. Donc c'est des stations qui existent encore,
elles existent
mais qui sont désaffectées.
Elles ont été désaffectées pour la plupart au moment de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, car beaucoup de stations ont été fermées à ce moment-là, d'autres ont été après réouvertes, et parmi les stations qu'on a pu visiter, la plupart, oui, ont été fermées en 1939, mais d'autres, par exemple, n'ont jamais vu le jour, c'est-à-dire qu'on les a creusées, par exemple, il y en a une à la Défense qu'on a été,
Le lieu a été creusé, mais il n'a jamais, fini par être ouvert.
Eh bien, écoutez, rendez-vous donc dans les stations fantômes du métro parisien.
Ça s'appelle la ligne fantôme. Et je dois dire qu'il y a, un auteur que nous aimons beaucoup à Mauvais Genre, qui est Philippe Vasset, qui nous a fait le grand plaisir de nous livrer une nouvelle sur le thème des stations fantômes.
On sera à l'écoute en attendant. Eh bien, portons-nous dans un autre univers, celui de Gilles Seban, où les fantômes, évidemment, vont venir aussi à notre rencontre.
And a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad on the face of the whole earth. Come, let us build ourselves a city, and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad on the face of the whole earth. Come, let us build ourselves a city, and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad on the face of the whole earth. Come, let us build ourselves a city, and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad on the face of the whole earth. Come, let us build ourselves a city and a tower with.
Come, let us, de Marc Pritchard, en ouverture de cette playlist spectrale et fantomatique ce soir dans Mauvais Genre. Alors, Gilles Seban, Cirque Mort, une silhouette sombre, les pieds dans la boue glacée, la tête perdue dans des cimes givrées des arbres, l'hiver, la solitude, les fantômes, les spectres, toute une histoire de disparition, d'apparition. Oui. On peut commencer très simplement par essayer d'en savoir un peu plus sur l'histoire que vous nous racontez, celle du lieutenant Dapper.
Oui, le lieutenant Dapper qui cherche son enfant disparu. Un enfant de 8 ans qui s'appelle Théo. Il était dans une enquête sur des adolescents qui avaient disparu et puis finalement le malheur le touche de plus près. Donc le point de départ, c'est, on parlait de fantômes, de vibrations. La première image, c'est Dapper, le lieutenant, dans une allée de centre thérapeutique, d'asile psychiatrique, une allée bordée d'arbres, très belle, dans laquelle il ressent une très forte émotion et qui est au bout de l'allée, il y a des choses qui l'attendent.
Je cite la première phrase du livre. Pour un esprit sain, il n'existe aucune vibration dans les arbres annonçant l'allée qui mène au centre de soins des enfants aliénés. C'est tout à fait ça. C'est l'idée d'un franchissement. On passe une limite et on bascule dans un autre univers.
En fait,
parce que ce centre va être au cœur de l'histoire.
Voilà, tout le livre est sorti de cette image-là. Je ne savais absolument pas ce que j'allais raconter. J'avais uniquement cette image d'accompagner quelqu'un qui est dans un désordre mental dans un hôpital psychiatrique et de la beauté de ça. Je suis parti de ça et le livre est né de je ne sais pas quoi qui était lié à mon histoire et à l'histoire de ma famille sûrement, à cette psychiatrie qui hante mon passé.
Hubert Prolongeau.
Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que représente l'enfance pour vous ? Elle est au centre du livre, une enfance souvent victime, kidnapping, enfermement. Il y a un soupçon de pédophilie chez le docteur Tristan. Vous êtes le spécialiste de Tony Duvert, auteur ô combien sulfureux. Arthur Dreyfus, en parlant de votre œuvre de peintre, vous avez désigné comme peintre du mystère des garçons. Donc qu'est-ce que c'est pour vous l'enfance ?
Alors c'est difficile de vous répondre parce que c'est le questionnement qui hante, qui agite, disons, on va pas utiliser le grand mot, tout mon travail d'écriture et effectivement de peintre aussi. Donc je pense que c'est, plutôt que de vous dire ce que ça représente, je peux vous dire quel creux ça, quel vide ça creuse en moi. C'est-à-dire que il y a vraiment chez l'enfant que j'ai été sans doute, quelque chose qui continue de me poser des questions et de me ramener à un passé que je n'arrive pas à résoudre. Donc j'écris des livres pour tenter de m'approcher de ce mystère-là. Je crois que c'est ce que je peux dire de plus juste par rapport à l'enfance.
Et celui-là, vous en avez rapproché ?
Oui, ça m'en a rapproché parce que j'ai accepté pour la première fois la fiction absolue. Et finalement, j'étais plus proche de l'inconscient, j'étais plus proche de l'autobiographie, au fond, en acceptant de ne plus être dans la répétition de souvenirs, mais plutôt dans l'exploration d'un inconscient, disons, dans l'écriture. Donc oui, je crois que ça m'a... C'est une autre époque. Et puis pour la première fois, je ne me situe plus comme l'enfant, mais je me situe plutôt du côté du père. Donc c'est peut-être la première fois que je deviens adulte avec ce livre.
Élise Lépine.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé effectivement le personnage du docteur Tristan. Bon, il a quelque chose d'inquiétant et de.
Mais
il
a aussi faudrait d'abord dire qui est ce mystérieux docteur Tristan, qui est l'autre pôle du livre avec le lieutenant Dapper.
Voilà, ce fameux docteur Tristan qui est en fait qui s'occupe de ce centre pour enfants qu'il appelle insensé.
Oui, insensé, voilà. C'est un vieux mot. Justement, j'aime bien qu'il soit un petit peu vieux jeu, cet homme, un petit peu ancien monde. Donc on parle d'aliéné, on ne parle plus du tout d'aliéné aujourd'hui, on parle d'insensé. Et effectivement, le modèle du docteur Tristan, il y a plusieurs choses, mais j'ai pensé à Gassian de Clérambault. Il y a une biographie de Gassian de Clérambault, le psychiatre du 19e siècle, qui s'intitule « Le maître des insensés ». Je trouvais que c'était un très beau titre. Et donc, effectivement, ce personnage de psychiatre inquiétant, mais finalement qui propose autre chose sur la folie, quelque chose qui n'est pas... basé sur l'idée de maladie, mais plutôt l'idée de pouvoir. Ça évoque finalement ces enfants sous un autre angle, peut-être aussi plus positif. Je pense avoir approché de près ce qu'était le désordre mental et j'y ai vu autre chose qu'un manque. J'y vois aussi peut-être pas une chance parce qu'il y a beaucoup de douleur là-dedans, mais j'y vois la possibilité d'accéder à une autre connaissance. Donc ma connaissance aussi de l'enfance, elle vient de là, de l'observation du désordre mental, de la folie, enfin je ne sais pas comment il faut l'appeler.
Alors on va également éclairer un peu le sens très étrange du titre « Cirque mort ».
Oui, c'est au départ, il y a un fait dans la ville qui va être un traumatisme général, qui est... que des animaux d'un cirque installés là pour quelque temps à Noël sont tous décimés dans la nuit et quand l'aube se lève, les enfants qui vont à l'école, tous les habitants voient tout d'un coup cette image affreuse de sang dans la neige. Théo, le personnage principal qui a disparu, donc qui est un personnage en négatif puisqu'on ne le voit pas dans le livre véritablement, Théo a vu ce cirque mort et en a fait un dessin. Et c'est un mot d'enfant, c'est-à-dire que cette expression de cirque mort, un peu étrange, vient de lui, donc vient du disparu. Voilà, c'est lui qui nomme ce traumatisme.
Il tendit à Dapper la feuille qu'il tenait en main et sur laquelle le lieutenant eut la surprise de découvrir « Cirque mort ». C'est comme ça que dans son esprit il avait surnommé l'événement. Des dessins, il y en avait eu des centaines après le drame. Toutes les écoles avaient proposé leurs petites expositions dans les préaux, mais le dessin d'Ilias avait une précision quasi surnaturelle. On avait l'impression que la scène était observée non d'un point de vue, mais absolument. Au premier plan, comme dans les lointains, tout était d'une même précision. Dapper allait rendre le dessin quand il s'aperçut d'un détail. Bordant le cadavre du singe éventré, lignes entrelacées dans celles du sol plein d'herbes hérissées, il venait de distinguer une lettre, puis plusieurs, puis un nom. Kevin avait été le premier garçon à disparaître. Dapper ouvrit la bouche pour parler, puis se ravisa. Autour de l'otarie sanglante, Ilias avait noirci le papier jusqu'à le gaufrer. On pouvait lire Ryan, le prénom du second disparu. Dapper eut un haut-le-cœur et regarda Ilias qui avait les yeux plissés et semblait attendre quelque chose. « C'est le tigre », murmura le gosse, comme s'il voulait aider un camarade qui aurait séché au moment de l'interrogation écrite. Autour du vieux tigre, Dapper parvint soudain à lire le prénom de son fils et il en fut bouleversé.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Alors effectivement, là, on est au cœur du problème. C'est que l'enfant qui dessine, qui s'appelle Ilias, qu'on va retrouver, oui, qui dessine absolument. Et là, justement, on s'approche de cette tentative, de cette vision que vous donnez de l'enfance, qui est une vision sacrale, initiatique, chamanique. C'est l'enfant qui détient tous les pouvoirs. Il y a cette phrase dans le roman, être adulte, c'est déchoir. L'enfance, les enfants, être adulte, c'est déchoir, perdre ses pouvoirs. Ça veut donc dire que tous les pouvoirs sont dévolus à l'enfant, que le passage à l'âge adulte consiste en une sorte de déperdition, de déchéance, oui, et qu'il va falloir... Est-ce qu'on peut les retrouver? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette vision de l'enfant, et les enfants, les insensés, ceux qui sont dans le centre, sont des espèces d'enfants rois, d'enfants mages, d'enfants... pas omnipotent, mais rayonnant d'une espèce de sagesse incompréhensible.
Mais justement, peut-être que le parcours de ta peur, donc il y a un lieutenant de police qui au départ a quelque chose d'extrêmement rationnel, de trop rigide, peut-être que tout le malheur qu'il subit à travers la disparition de son enfant le conduit à se relier à son passé et finalement à aboutir à une connaissance. C'est-à-dire que je pense que effectivement il y a quelque chose dans l'enfance qui est de l'ordre de la connaissance, et je pense effectivement que il y a une perte qui se fait quand on passe à l'âge adulte. Ça, je pense, je suis pas le premier à le dire. Moi, je le mets en scène et j'essaie de montrer comment, en étant adulte, en étant si borné comme l'est Dapper, on peut, à travers des expériences, à travers une douleur, à travers un chagrin, on peut se relier à quelque chose en soi qui est plus essentiel, qui est plus juste. Et ça se situe vraiment pour moi dans l'enfance. Un moment et un lieu habitable. L'enfance n'est pas derrière nous, l'enfance n'appartient pas au passé. L'enfance est un lieu qu'on peut visiter quand on le souhaite, si on s'y entraîne. Et je pense que les insensés, les petits insensés, peuvent permettre d'y accéder.
Bien, prolongeons.
Vous n'avez pas écrit jusque-là des livres roses, mais c'est la première fois que vous œuvrez directement dans la littérature noire. Pourquoi ce choix? Et est-ce que ça a modifié votre écriture en quoi que ce soit, soit dans les thèmes, soit dans la construction, soit en se pliant peut-être à une certaine progression plus évidente, plus déjà écrite, plus cliché peut-être, de ce qu'est un livre de genre?
Oui, y a plusieurs choses à dire. Je crois que j'ai accepté en moi... la narration. Jusque-là, j'avais une méfiance, peut-être très française, à raconter une histoire, même si on m'a toujours dit que je racontais des histoires, mais je me méfiais beaucoup. J'ai accepté de le faire en me disant que je voulais transposer une histoire qui était très forte pour moi, dont j'ai déjà parlé, un lien très fort, pour qu'il n'en reste rien de visible, que transposer dans une histoire et qu'on ne puisse pas, que je puisse finalement faire lire des choses illisibles au plus grand public. Donc il y avait cette idée qu'il y ait des choses par en dessous dans le texte. Je pense que tout est en dessous, comme voilà, il y a l'image de la glace avec les corps qui sont pris dans la glace. Je pense que dans ce livre, tout est en dessous. Donc voilà.
Justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est un roman de l'hiver, ça tombe bien. C'est un roman qui est en phase, voilà, avec notre actualité météorologique. Et c'est ça, l'hiver, ça. C'est le recouvrement, le masque, la pétrification. Enfin, je veux dire, tout est gelé, tout est caché, tout est obscur. On se confine pour ne pas subir le froid. Donc c'est ça que vous avez, voilà, souhaité faire, un roman à la fois de la révélation et en même temps de la dissimulation.
Mais c'est le roman commence au dégel, en fait. C'est-à-dire à la fin de l'hiver, le moment où ça commence à fondre. Donc ce qui m'intéressait, c'était l'idée de révélation. Et évidemment, dans le polar, dans le roman noir, le paysage a souvent une grande importance. C'est vrai qu'à travers le paysage, à travers les animaux, on arrive à trouver des images fortes. Donc oui, il y avait la notion du paysage, mais à un moment de transformation, comme l'enfant se transforme, comme les enfants se transforment au cours du livre, comme le personnage de Dapper se transforme également, comme la femme de Dapper, hein, il faut en parler peut-être, Anna, qui elle aussi vit à sa manière l'enlèvement de son fils, tous ces personnages-là se révèlent à eux-mêmes et quelque chose qui était en eux tout d'un coup devient visible. Et je pense que ça leur fait peur, mais que c'est nécessaire.
Oui, parce que le fils de Dapper, Élise Lépine, n'est pas mort, il a disparu. Et c'est ça qui enclenche une mécanique psychique et une mécanique judiciaire aussi très particulière.
Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce texte, c'est un petit procédé que vous avez, un détail peut-être, mais les dialogues sont en italique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de point ou de guillemets avec un trait. Oui. Et je trouve que là, ça dit très bien justement cette incapacité de chacun à vraiment communiquer ou à vraiment entendre l'autre, puisque on a cette femme qui n'arrive pas à dire à son mari qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle est. On a ce mari qui n'arrive pas non plus à communiquer avec son entourage, avec les personnages qu'il va interroger. Et on a presque l'impression que c'est de la pensée ou que c'est du dialogue intérieur.
Oui, c'est de la télépathie. De toute façon, voilà. Ilias semble avoir des capacités de télépathie. Donc effectivement, bon, c'est vrai que j'ai cédé à l'univers du polar, et notamment pour la première fois j'ai utilisé le passé simple. Ça peut paraître un détail, mais pour moi c'était quand même un passage important. En revanche, comme d'habitude dans mes livres, je déteste le dialogue qui se voit, qui se détache, parce que pour moi, ce qui compte dans la littérature, c'est la voix intérieure. Et je voulais faire sentir les voix intérieures. Donc effectivement, tout est fusionné pour qu'on ait le sentiment qu'on est plutôt à l'intérieur des têtes.
C'est vraiment une très bonne idée, parce qu'on a un sentiment d'étrangeté en lisant ces dialogues. On a vraiment l'impression qu'ils parlent sans s'adresser la parole et que chacun est
oui,
à
ben,
sortir de
voilà, je voulais pas être dans le réalisme du téléfilm. J'avais envie d'être dans quelque chose qui soit quand même uniquement possible en littérature. Sinon, pourquoi la littérature ?
Hubert Prolongeau.
Vous dites céder au genre noir comme si c'était une facilité. Vous avez cédé aussi au fait de mettre en scène des meurtres en série. Il y avait déjà un tueur en série dans La Fête des Pères. C'est un personnage qui est devenu archétypal jusqu'à la caricature dans le polar aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente là aussi pour vous, ces tueurs en série ?
Ah, le tueur en série. Bon, je pense que dans le tueur en série, ça m'intéresse depuis ma lecture de Jean Genet. Je pense que le tueur en série, la découverte du tueur en série, c'est la découverte du tueur qui fait le lien entre sa sexualité et le crime. Donc c'est cette entrée-là qui m'intéresse. Mais évidemment, ce qui est intéressant aussi dans cette figure du tueur en série, c'est l'obsession. Et donc l'obsession de l'écrivain, de l'artiste et l'obsession du criminel, c'est des obsessions qui sont très voisines. Donc ça m'intéresse bien de parler, d'avoir une intrigue policière pour parler d'art. Voilà, avec l'histoire des dessins, c'est la même chose. Je me suis aussi beaucoup inspiré d'un dessinateur d'art brut qui s'appelle Henry Darger,
qui est un habitué de mauvais genre, mais qu'on a souvent évoqué à cette antenne avec Xavier Montméjean, qui travaille depuis des années et qui continue à travailler sur lui aussi.
Voilà,
c'est des fillettes, c'est les petites fillettes assaillies par des cavaliers.
Voilà. Et donc, on, à propos d'Darger, on a plusieurs hypothèses. Qu'il était totalement, c'était un innocent qui n'avait jamais
rappelons
vu.
Rappelons qu'il a vécu ermite à Chicago, voilà, dans une petite pièce, voilà, où il entassait des milliers et des milliers de documents.
De dessins magnifiques, mais étranges, où il racontait l'histoire d'enfants qui étaient aux prises avec de très méchants militaires à la fin du 19e siècle. Mais lui vivait au 20e siècle et est mort dans les années 70. On a découvert un tas de dessins incroyables et toute une histoire, parce qu'il écrivait aussi beaucoup. Et tout son univers vient d'une sorte de folie. Lui aussi, quand il était jeune, vivait dans un centre thérapeutique. Et c'est sans doute ce qui m'a guidé vers ce centre. Il était à la fois protecteur des enfants, et en même temps, on l'a soupçonné d'avoir fait du mal à des enfants. Donc, innocent ou criminel, en tout cas, un très très bel artiste.
Il était homme de ménage, je crois, dans un gigantesque centre psychiatrique.
Voilà, il faisait la vaisselle, en fait. Et on n'a jamais rien su de ses activités artistiques. Jusqu'au moment où son logeur a découvert.
On est allé voir un peu plus près, là.
Voilà, les merveilles.
Élise Lépine.
Vous abordez donc effectivement la question du crime, du tueur, mais vous abordez aussi la question de la victime. Je trouvais ça très intéressant. Il y a par exemple ce personnage de secrétaire qui est la secrétaire du docteur Tristan, qui prend un certain plaisir quand même à se faire malmener par lui. Et puis on va croiser quelques-unes de ces victimes comme ça. Vous interrogez la question peut-être du plaisir ou du
masochisme. Mais j'essaye d'interroger les deux faces. Et de ne pas décider de qui fait quoi. C'est-à-dire que d'interroger les deux phasmes du sadisme et du masochisme, et de ne pas tout à fait décider de savoir où est le bourreau et où est la victime. Ce qui m'intéresse, c'est un petit peu comme ce que j'ai dit par rapport à Darger, c'est qu'on puisse avoir les deux interprétations et que, puisque c'est un roman policier, au fil de la lecture, on puisse mettre l'enlèvement, la disparition de Théo à telle ou telle personne qui paraît tour à tour victime ou coupable, et peut-être même les deux, parce que je crois qu'on est toujours un petit peu les deux dans notre vie.
Et puis vous soulignez aussi le fait que sans victime, pas de bourreau, il y a vraiment une interdépendance, et le bourreau n'existe pas sans sa victime.
Absolument, et cette dépendance fait couple, c'est un couple, c'est un amour étrange qui se déroule entre ces deux pôles-là.
Alors, le personnage central, on l'a déjà mentionné, c'est le docteur Tristan, dont le nom n'est pas indifférent. C'est une histoire mythique d'amour et de destinée. Quelle est un peu cette vision? Parce que ce type de personnage est généralement, je dirais, abonné à une vision assez classique du médecin de la mort, oui. D'une sorte de mauvais démiurge, de puppet master délirant et qui veut soit refonder l'homme, soit assouvir sa folie propre. Là, quel est un petit peu le but dans la création de ce personnage du docteur Tristan, qui est à la fois inquiétant, maléfique entre guillemets, et en même temps fascinant, enfin émouvant et vertigineux?
Mais oui, alors on peut. C'est vrai que voilà, les gens lisent le livre et me disent Tristan, quel inquiétant personnage. À vrai dire, moi, je me sens très proche Tristan, et c'était une façon pour moi de dire ma vérité, mon interprétation par rapport à la psychose. Je trouvais intéressant de pas avoir forcément le discours habituel, et ça m'intéressait de partir d'un type qui peut être lui-même pris dans la maladie. C'est-à-dire, donc, je suis parti de Gatien de Clérambeau, qui était psychiatre, maître de Lacan, dit-on, qui lui-même éprouvait une fascination pour les étoffes au point de photographier des femmes absolument voilées, puisqu'on ne voyait plus rien d'elles. Les photos sont très très belles, très étonnantes, puisque tous ces plis semblent sculpturaux et font penser aussi à des sexes, ou enfin il y a quelque chose de très troublant. Et en même temps, ce personnage-là, qui a fini par se suicider, était spécialiste des femmes qui elles-mêmes avaient des émois érotiques avec des étoffes, puisqu'à cette époque-là, au début du XXe siècle, on achetait beaucoup de coupons, de tissus, donc c'était voilà.
Les voleuses de coupons.
Voilà, les voleuses de coupons. Et donc, il s'est intéressé de façon très scientifique à une à un fétichisme qu'il éprouvait lui-même. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Mmh. Donc, j'ai voulu créer un personnage qui soit à la croisée, qui soit en même temps, qui soit justement inquiétant, parce qu'il est des deux côtés. Il est possiblement malade et il est en même temps maître des malades. Donc, quelle confiance peut-on faire à ce type de psychiatre ?
Le docteur Tristan avait parfois l'impression de vivre parmi les fantômes. En pensant cela, il n'avait pas en tête ces petits pensionnaires qui, au contraire, avaient la vivacité des bêtes sauvages dans leur présence indiscutable. Avec eux, pas question de relâcher l'attention. D'ailleurs, Tristan avait un regard tout à fait spécial quand il les croisait dans le couloir. Parfois, les auscultait ou leur demandait d'accomplir une tâche, car il n'était pas contre l'idée que ces garçons participent au fonctionnement du centre dans la mesure de leurs moyens qui, disait-il, étaient toujours supérieurs à ce que laissaient prévoir les descriptions cliniques de leur pathologie. Oui, il les scrutait en permanence pour déceler le moindre danger, car comme un dompteur aime ses lions et ses tigres, il aimait ses gosses avec cette donnée fondamentale, ils avaient en eux la capacité de tuer. Extrait donc de Cirque Mort, oui, de notre invité Gilles Seban ce soir dans Mauvais Genre. C'est un peu ça, c'est à la fois un manipulateur. Parler de Puppet Master, c'est un marionnette, enfin, c'est quelqu'un qui tente au pouvoir et à la manipulation, et en même temps, il y a une fascination, il y a un devoir à l'égard des enfants.
Mais il y a une manipulation parce qu'il a une théorie assez inquiétante qui est la théorie du grand remplacement. Pas celui qu'on connaît, mais le grand remplacement, c'est-à-dire qu'il voudrait que tous ces petits insensés, une fois grandis, investissent la ville et remplacent les enfants qui sont les enfants de la ville. Donc il y a deux pôles dans Cirque Mort, il y a la petite ville et puis le centre thérapeutique, et c'est un petit peu son armée. Donc il y a quelque chose qui est très inquiétant de ce côté-là. Et puis en même temps, il y a une sorte d'amour très fort dont on ne comprend pas bien. On met du temps à comprendre quel est l'attachement que le docteur Tristan a par rapport à tous ces petits insensés. Il les appelle ces petits démons. Alors, c'est des démons intérieurs qui prennent forme tout d'un coup dans une grande sauvagerie, évidemment.
Élise Lépine.
C'est vrai que travailler sur la folie dans un polar, c'est une très bonne idée, puisqu'effectivement, il y a d'un côté ce côté très inquiétant et angoissant de ce personnage Tristan qui manipule tous ses enfants dans la direction qu'il souhaite. Et puis, il y a aussi le côté imprévisible de la folie. C'est-à-dire qu'on va croiser tout un tas de personnages, en tout cas plusieurs de ces petits garçons qui ont chacun leur histoire. Et on voit que ce sont un peu des bombes à retardement, mais qui vont dans la direction où elles veulent aller. C'est-à-dire qu'elles sont finalement incontrôlables.
Oui, ben, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans le roman noir, justement. Alors là, du point de vue narratif, c'était de pouvoir passer d'un point de vue à l'autre, comme on le ferait au cinéma. Il y avait une jouissance de ne pas rester sur le même personnage, mais tout d'un coup, un personnage en croise un autre, et puis on capte le regard de cet autre. Ça se passe au début du roman. Le lieutenant Dapper est vu par un jeune psychotique qui s'appelle Hans, et tout d'un coup, on est dans le regard de ce personnage de Hans. Donc, j'ai oublié votre question, mais effectivement, oui,
sur l'imprévisibilité, de la folie.
Elle est aussi dans la narration, c'est-à-dire que, puisqu'on ne sait pas du tout comment vont réagir ces enfants, et puisque les interlocuteurs rationnels, comme les policiers, donc, et notamment le lieutenant Dapper, fait face à cet aspect totalement irrationnel, la narration peut bifurquer de façon très étonnante, et j'avais envie de surprendre le lecteur et de me surprendre.
Et ça désamorce en plus l'un des écueils du polar potentiel qui est « Ah ben je le savais, j'en étais sûr ». C'est-à-dire que là, on ne peut pas trop dire ça. Il y a quand même un côté... tout peut arriver dans ce livre.
Oui, et il y a effectivement une tension, il y a un suspense. Mais finalement, quand on a la réponse, je pense que la question est encore plus terrible. C'est ce qui m'intéressait, c'était que la réponse renforce l'inquiétude qu'on peut avoir sur ce qu'est une identité. Et ce qui est aussi le lien, parce qu'évidemment c'est le grand thème entre le père et le fils, je crois que c'est dans tout ce que j'ai écrit, c'est ce qu'il y a de plus prégnant, c'est le lien père-fils. Voilà. Donc ça aussi c'est imprévisible et c'est une enquête, que ce soit une enquête policière ou pas, la question c'est de savoir qui est son père et quelles paroles elle a à délivrer.
Hubert Prolongeau, vous êtes un écrivain assez dérangeant, voire transgressif. Est-ce que rentrer dans une littérature beaucoup plus codée, ça vous a fait lisser ce côté dérangeant ? Est-ce que la contrainte, en fait, vous a fait gommer des choses ou vous a au contraire libéré encore un peu plus ?
Oui, j'ai gommé des choses, c'est, effectivement. C'est une contrainte par plaisir. j'ai gommé l'homosexualité dans le livre. Parce que ça aurait été inintéressant que les choses viennent de là. Il me semblait que tout devait être un petit peu translaté et que la marge devait être ailleurs que dans la sexualité. Donc c'est sans doute mon roman qui est le moins directement sexuel. Mais c'était avec plaisir que je me contraignais. Parce que j'y entraînais l'autre, le lecteur. C'est un piège terrible, un roman noir. Parce que l'air de rien, on peut faire avaler des choses très très dures à avaler. Donc ça m'amusait, encore une fois, que le lecteur ne soit pas tout à fait consentant.
Et on en avale dans Cirque Mort.
Voilà, nulle contrainte et beaucoup de plaisir et beaucoup d'anxiété et de fascination à la lecture donc de votre livre. Gilles Seban, Cirque Mort, c'est aux éditions du Rouergue dans la collection Rouergue Noir.
Absolument.
Et c'est le livre que nous vous recommandons pour ce week-end et pour ces temps neigeux, givreux et assez inquiétants. Chronique maintenant d'un mauvais genre sur France Culture. On commence avec vous, Élise Lépine, et avec Scalp.
Voilà, Scalp de Cyril Héry, qui est paru aux éditions Seuil dans la collection Cadre Noir.
Alors, on revient un peu sur Cadre Noir, parce que c'est une collection qui fond
plusieurs types de textes, qui va chercher dans différentes directions. Il y a eu un peu d'anticipation, il y a eu des romans assez drôles. Il y a ce roman qui est très noir et qui tend un peu vers le nature writing. C'est une collection qui est dirigée par Gwenaëlle Desnoyers, qui est assez récente et qui m'apporte beaucoup de satisfaction jusqu'à présent. J'ai lu que des bonnes choses dans cette collection. Là, alors donc, Scalp de Cyril Héry, on est toujours un peu dans cette même thématique que dans Cirque Mort, de la recherche du père. Il s'agit d'un jeune garçon de 9 ans qui perd son beau-père et sa mère décide qu'il est temps pour lui de rencontrer son vrai papa qu'il n'a jamais connu puisque le père en question est parti quand sa jeune compagne était enceinte. Rejoindre un milieu d'activistes altermondialistes pour l'environnement. Et il n'a donné que quelques nouvelles par le biais de cartes postales. Donc on apprend qu'il a été en prison, et puis qu'il a cherché à s'isoler toujours plus de la société, peut-être à retrouver un idéal. Et il est allé dans une zone très reculée de France pour planter sa yourte. Donc il s'est installé dans une yourte. Et la mère de cet enfant qui a tout perdu, décide de partir à la rencontre de cet homme. Malheureusement, quand elle arrive dans la yourte, donc on est vraiment dans une zone rurale, un peu marécageuse, avec des étangs, etc., il n'y a personne. L'homme n'est pas là. Visiblement, il est parti il y a peu de temps. Et elle va s'installer dans cet endroit avec son fils, Hans. Donc là, en fait, il y a trois points de vue qui vont se regrouper dans ce livre, qui vont se suivre. Il y a d'une part le nôtre, celui du lecteur, où on va sentir plus on avance dans le texte, qui est très intéressant parce qu'il est à la fois très lent et en même temps rempli de tension, on va sentir grandir un danger dans ce dans cet endroit, dans ce marécage, puisque en fait il n'est pas si désert que ça. Il va y avoir un voisin un peu bizarre qui va apporter son aide à la jeune femme, mais finalement on se demande s'il n'est pas quand même un peu dangereux. Et puis il y a des hommes qui roulent par là en 4x4 et qui semblent tenir un peu la région et qui semblent très hostiles à l'arrivée de nouveaux habitants dans cette yourte. Et il y a le point de vue de la femme qui, elle, ne se rend pas compte vraiment du danger qu'elle court et qu'elle fait courir à son garçon. Elle a ce point de vue qui est assez rationnel et qui pourrait être celui de n'importe qui, c'est-à-dire je suis dans un endroit tranquille, je m'installe dans une yourte, il va rien m'arriver. Puis finalement, il va se produire quelque chose. Et puis on a le point de vue le plus intéressant qui est celui de Hans, ce petit garçon de 9 ans, qui lui voit dans cette aventure quelque chose qui tient du récit du cow-boy et des Indiens, et qui va avec son petit ses petits poings et ses petites jambes poursuivre cette aventure là qui est en fait extrêmement périlleuse, extrêmement dangereuse. Il y a vraiment une spirale de danger qui se met en route là dans ce coin reculé. Il y a tout un tas de menaces qui planent sur cette mère et son fils, et lui il va voir ça à travers ses yeux de petit aventurier de 9 ans, et c'est absolument pétrifiant comme texte, et la fin est incroyable. Enfin, moi, j'ai été traumatisée par cette fin. Écoutez, vraiment. Et c'est pas souvent. Hein.
Ah, bah oui, non, c'est pas souvent. Puis vous avez commencé.
Heureusement, parce qu'on en lit quand même beaucoup.
Vous avez pas entendu la route.
On en lit quand même beaucoup. Et puis surtout, autre grand atout de ce texte, on est vraiment dans du nature writing. C'est pas une ressucée de Rick Bass ou de Pete Fromm. On est vraiment dans du nature writing à la française. On en a pas beaucoup encore. L'influence américaine se sent, mais en même temps, il y a quelque chose de très inventif.
Merci Alice. Donc on rappelle Scalp de
Cyril Herry.
Cyril Herry, c'est donc au seuil dans la collection Cadre Noir. Hubert Prolongeau.
Les bifs.
Alors là, on n'est pas dans les pratiques occultes. On est plutôt dans la.
Ouais, dans la misère sociale, mais une
dans
misère.
Dans le hardcore social le plus effréné.
Mais dépeint sans misérabilité, ce qui est une grosse vertu. En fait, c'est plus simple de définir ce livre parce qu'il n'est pas que par ce qu'il est. C'est pas un polar. Il y a une intrigue un peu arachnéenne avec une vague résolution à la fin, pas totale. Et dans le fond, on s'en fiche un peu. C'est pas non plus un reportage. Il y a plusieurs nuits de maraude au SAMU social, puisque l'héroïne est au SAMU social. Et heureusement, dans la vraie vie, c'est quand même beaucoup moins dramatique. Là, à chaque fois qu'elle sort, la malheureuse avec son équipe, il y a un mort, il y a des bagarres au couteau, il y a un incendie. Mais ça ne va quand même pas vers le fantastique. C'est un espèce de portrait d'un quartier que Marc Villard arpente visiblement.
Alors, donc, Marc Villard, les Biffins, c'est audition Los Fels.
C'est ça. Qu'il arpente avec bonheur et persévérance depuis des années. Et il arrive à tisser comme ça une espèce de fresque qui a la dimension d'une miniature, parce que c'est un livre qui fait 120 pages, dans laquelle, avec un art du regard, du détail, de la vision, il fait jaillir comme ça par flash des personnages extrêmement vrais, extrêmement attachants. C'est une suite de croquis, c'est pas des tableaux élaborés, c'est des traits comme ça qui disent beaucoup sur un monde. Il n'y a pas d'apitoiement, il n'y a pas de misérabilisme, en même temps il n'y a aucun mépris pour les gens, il est dans une espèce de position délicate et très très vraie. Le récit va très vite et voilà, c'est un instantané comme ça, mené par cette héroïne qui est un peu son porte-parole, qui est très juste, très émouvant et qui en dit autant que beaucoup de reportages. Il y a une vérité du regard que beaucoup d'auteurs n'ont pas. Ça rappelle ce qui, à mes yeux, est un des plus beaux livres, sans doute un des plus beaux polars, écrit sur le milieu de la rue, qui était le Mon Vieux de Thierry Jonquet. Sans être totalement à ce niveau, il y a chez Villard quand même beaucoup de choses qui s'en rapprochent.
C'est aussi une réflexion sur, je dirais, la bienveillance sociale, l'assistanat social, puisque l'héroïne, donc, elle travaille au SAMU social, elle passe ses nuits en maraude à essayer de pallier à toutes les formes de misère, de pallier toutes les formes de misère possible. Et puis après, elle bascule dans un autre monde qui est celui des bifins, parce que là, on est à l'intérieur justement de l'univers de l'assistance sociale la plus extrême. Et donc, il y a aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que aider, qu'est-ce que c'est que soigner, pourquoi, comment, les méthodes et le désir profond qu'il y a à la base de tout ce désir d'assistance sociale.
Mais là aussi, une vision de ce désir qui est sans angélisme. Tout n'est pas merveilleux et son héroïne n'est pas un vaillant petit croisé qui résout tout. Et en même temps, son noirceur absolue, c'est pas non plus, on peut rien faire, on peut. Donc il y a aussi là une espèce de vérité et qui est donnée avec une économie de moyens qui est assez remarquable.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que dans cette fameuse démarche d'aide à l'autre, on se rend compte qu'elle aide ces gens de la rue, mais finalement, elle est aussi aidée par ce métier. C'est à travers ce métier-là et ces actions-là qu'elle-même se guérit, qu'elle se soigne et qu'elle... Et bon an, mal an, qu'elle arrive à rester vivante.
Et qu'elle trouve un sens à ce qu'elle fait. Mais qui n'est pas fait par des réussites spectaculaires, c'est aussi une politique de tout petit pas, c'est résoudre une bagarre là, c'est donner un café là, ça correspond assez à ce qu'est le vécu, désespérance en moins et lassitude en moins de beaucoup de ces travailleurs sociaux.
C'est un roman qui ressemble un peu à une nuit de maraude, c'est-à-dire c'est toute une série de petites étapes. Et à chaque étape correspond une souffrance, un visage, un cas, un nom, une phrase, et on repart après, et ça se fait en même temps très vite. J'avoue que ça m'a beaucoup impressionné par la vitesse du récit qui est très juste. Et effectivement, on échappe au misérabilisme, on échappe à l'idéologie, on échappe à tout ce qui est discours sûr, pour être dans l'espèce de engoncé presque dans le vécu brutal de ce que peut être l'assistance sociale. Vous êtes connaissez ce type de Marc Villard? Vous êtes un lecteur de Marc Villard, Gilles Sebon?
Non, je ne connais pas. En revanche, les gens qui sont dans la rue, ça me touche beaucoup. Et je crois que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à les mettre à l'abri. Donc ça me touche, j'ai envie de le lire.
On termine cette émission, bien évidemment, avec Christophe Beer.
En matière d'érotisme zoophile, La femme au chien est le chef-d'œuvre. Roman clandestin de l'entre-deux-guerres, inoubliable par la description, pour ainsi dire, psychologique des chiens. Dans ce registre canin, ajoutons désormais L'animal de compagnie, publié par La Musardine, que Jacques Abeille signe de son nom d'auteur érotomane, Léo Barthes. Henriette et Jean y mènent une vie paisible qui confine à la routine. La garde de Buster, le chien affectueux de Georgette et Edmond, parti aux antipodes, bouleverse leur sexualité. Dans la salle de séjour, Henriette, harnachée d'un bustier, s'étend sur le tapis. La bête est intelligente. Jean, le narrateur, consigne avec attention. Sans qu'il soit nécessaire d'émettre un son, nous attendons, en effet, Buster qui se lève de sa couverture et renifle. Il surgit, hume l'air, en nous regardant, figé dans une question muette, fait quelques pas, de nouveau hésite, s'approche enfin du corps étendu, immobile, en attente. Plus loin, les préliminaires engagés, Jean poursuit, émerveillé. Encore incertain de ce qui lui échoua, Buster tend la truffe vers le cul ouvert d'Henriette. Il le flaire et y distingue enfin un parfum de sauvagine qui lui ploie les reins. Il jette entre les fesses d'Henriette un gémissement de jubilation consentante. Alors, d'un seul mouvement uni et souple, lent, souverain, il saute. Ses pattes antérieures serrent avec vigueur la taille d'Henriette, son échine darde un arc puissant, tandis qu'avec une confondante délicatesse, il referme les crocs sur le bourrelet de torchon au cou de la femelle. Plutôt que d'ancrer le texte dans un réalisme cru, Léo Barthes nous porte dans une sidération poétique. Le chien est son complice. Buster témoignerait de touchantes prévenances amoureuses. Mais sa désinvolture animale, qui le voit après la jouissance, s'en retourner dans son panier et procéder bruyamment à sa toilette, fissure l'anthropomorphisme. À son retour, le couple d'amis récupère Buster et fait bifurquer le récit dans un insolite électronique. Edmond, ingénieur maniaque, entend porter la jouissance à son paroxysme grâce à la construction d'un chien mécanique, machine à jouir au frêle grincement. Une combinaison de rouages insensibles aux pistons de verre cannelés relègue Buster au second plan. L'auteur nous fait regretter le mystère térébrant des trépidations canines, mais nous régale d'une seconde partie où pointe la satire d'un capitalisme prompt à tout planifier. Aux orgasmes toujours plus contrôlés d'un accessoire de start-up s'oppose l'innocence des jeux érotiques, thème cher à l'auteur, ici révélé par une infime fragilité de bête sauvage.
Merci Gilles Sebande d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre.
Merci de votre invitation, François Angelier.
Merci à vous. Prochain titre, éventuellement, vous avez déjà...
Prochain titre, peut-être la suite de cet univers. On a envie de prolonger un petit peu qui sont les uns et les autres.
Prolongeons. Je signale, alors d'abord je voulais rappeler que Détour de Martin Goldsmith, dont nous avions parlé à la dernière émission, nous n'avions pas donné, c'est un tort, le nom du traducteur, c'est Simon Baril, fort bon traducteur d'un fort excellent livre. Je rappelle les ouvrages de ce soir. Donc la revue Féroce, disponible dans toutes les bonnes librairies. Gilles Seban, Cirque Mort, c'est au Rouergue, dans la collection Rouergue Noir. Marc Villard, Les Biffins, c'est dans la collection aux éditions Joël Losfeld. Cyril Héry, Scalp, c'est au Seuil, dans la collection Cadre Noir. Et puis d'Hubert Prolongeau, Et vous y croyez, Petit Tour de France des paroles occultes, des jeux occultes, non, des pratiques occultes, voilà, c'est chez Robert Laffont, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Pierre Montiel, Siam Boutata, Claire-Martin Duguerre, Céline Duchesne, Élise Lépine, Hubert Prolongeau, Christophe Bir et François Angelier, vous remercier d'avoir suivi cette émission. On se retrouve en grand équipage samedi prochain pour faire la fête à Todd Browning. En effet, l'immense génie d'Hollywood, le maître des frics et du cinéma grotesque, se voit honoré d'une rétrospective à la Cinémathèque et nous serons tous là pour chanter sa gloire. D'ici là, bonne nuit à l'écoute de France Culture.